Radio Barque, deuxième partie de notre 25e. Yannick Séguier est notre invité et on a effleuré avec vous alors votre passé et votre activité d'historien et d'homme de scénario et de théâtre. On a effleuré le cinéma. Maintenant, vous êtes en plein dedans. Alors, comment la transition s'est-elle faite?
Alors, en fait, au départ, j'ai commencé avec, effectivement, le théâtre. Mais très rapidement, je me suis posé la question de la forme. C'est-à-dire comment, à un moment donné, un spectacle historique peut être digeste. Et très rapidement, je me suis dit, ben, il faut mettre de l'image. Alors, au début, on a mis un peu d'images d'archives. Et puis, très rapidement, on a filmé nos acteurs dans des situations. Je prends un exemple sur un spectacle de 14-18. On est allé filmer nos acteurs dans des tranchées. Et ensuite, on a utilisé l'écran sur scène. C'est-à-dire que nos acteurs sont sortis de l'écran et sont venus jouer, voire re-rentrer dans l'écran.
Oui, dans quelque chose qui était du théâtre, quand même.
Au départ, c'était du théâtre. Oui. C'est-à-dire que mais très rapidement, après mes spectacles, j'ai fait un spectacle sur les Qatars, un spectacle sur la laïcité, etc. J'ai vraiment inclus le cinéma dans le théâtre. Donc ça devenait, en fait, un spectacle cinéma-théâtre. Voilà.
Ah oui, oui, c'est comme ce qu'il y a à Narbonne, le théâtre plus cinéma.
Oui, là, à Narbonne, c'est plutôt les deux salles, hein, une salle cinéma, une salle théâtre. Mais oui, c'est un peu ça l'idée.
Une combinaison des deux.
C'est une combinaison des deux. Et puis, donc, très rapidement, le cinéma m'a intéressé. Voilà, on s'est formé, on a testé, on a monté des séquences. Alors, effectivement, en venant de la mise en scène et en venant du scénario, l'imagination d'une séquence de cinéma, j'étais capable de le faire. Après, il fallait que techniquement, derrière,
filmage, après, il faut filmer. Quoi.
Voilà, il faut filmer, et ce qui est toujours compliqué en cinéma, c'est la prise de son.
Oui, voilà. Et la prise de son.
Voilà.
Vous faites bien de le remarquer, parce que je trouve que très souvent, les cinéastes sont mauvais dans les prises de son. Oui. C'est l'homme de radio qui parle, peut-être.
Et je comprends. Non, mais je comprends que vous êtes attentif à ce genre de choses. Et moi, personnellement, c'est quelque chose c'est une grosse difficulté. Donc,
c'est difficile, oui.
Oui. Donc ça, on fait toujours très attention. Et je dirais que, depuis maintenant une douzaine d'années que je fais du cinéma, on a beaucoup progressé sur, justement sur cette partie-là. J'allais dire que la partie cadrage, le travail de prise de vue, ça, c'était quelque chose, moi, qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire cette vision, la vision des acteurs, comment, à un moment donné, on fait ressortir la puissance de l'acteur en fonction de du placement de la caméra. Le son était un long travail de réflexion afin d'améliorer cette partie-là.
Oui, puis il dépend de l'endroit où on se trouve, finalement. Bon, là, on est confortablement dans un studio. Dès qu'on est en plein air ou dans un endroit qui résonne, ça doit être difficile.
Alors, et puis ici, nous sommes dans une région de vent.
Oui, en plus.
Alors, dès que nous sommes en prise de vue extérieure, c'est une difficulté, le vent. Donc, bon, on a des techniques maintenant.
Oui, bon, et des micros comme il faut. Alors, votre filmographie, en quelques mots, puisque vous avez fait un certain nombre de films, alors toujours, enfin presque toujours, alors sur l'histoire, ça c'est clair, souvent sur l'Aude. Citez-nous quelques films que vous avez réalisés.
Alors, j'ai commencé d'abord par faire un film sur l'histoire de Font-Romeu, sur l'histoire du petit train jaune, du grand hôtel, etc. Ça a été le premier film, et sur l'olympisme aussi. Ensuite, j'ai travaillé...
Avec Font-Romeu au moment des Jeux Olympiques de Mexico, peut-être?
Oui, mais ça faisait partie du film, puisque j'avais raconté l'histoire de Colette Besson. C'est une commune voilà, qui m'avait commandé un film, mais j'ai raconté, c'est tout le XXe siècle, qui est une commune particulière, hein, voilà, et ça a été le premier film. Et ensuite, donc, j'ai souhaité travailler sur l'histoire régionale, et en particulier, je m'étais penché déjà sur la partie viticole, puisque j'avais travaillé sur trois films sur l'histoire du midi viticole, mais sous forme de trois longs métrages qui représentaient pratiquement 4 heures de film.
Mmh, oui. Voilà. Oui, voilà. Donc, bon, vous êtes dans le bain et à un moment, vous vous dites là, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, vous réécrivez ou vous restructurez avec ce que vous avez un film que vous baptisez « Il était une fois le midi viticole », mais dans une optique différente.
Oui, parce que au départ, mes films, je les ai réalisés dans un objectif pas forcément pour les passer en cinéma. C'était plutôt pour faire du DVD, c'était plutôt pour faire... effectivement, on les projetait dans des salles, on allait dans les villages, etc. Mais je m'étais pas encore inscrit dans de la réalisation vraiment cinématographique.
Oui, le grand écran.
Voilà, le grand écran, avec la rencontre avec le public, etc. Bon, j'ai déjà passé dans des cinémas, des films, mais là, donc, j'ai retravaillé totalement, à partir, bien sûr, de ces trois premiers films. J'ai complètement réécrit mon scénario. J'ai gardé quelques fictions, puisque moi, en fait, je fais de la docu-fiction, hein, je mélange la partie documentaire et la partie fiction. Mais, je voulais avoir un format assez court, d'une heure, il fait exactement 1h10, dynamique, avec une qualité dans les images, une qualité dans le son, qui puisse passer dans les salles et qui puisse voyager.
Oui, donc les salles de cinéma, c'est un monde un peu différent peut-être par rapport à ce que vous aviez fait avant.
Ah, c'est un monde totalement différent parce que moi je passe par des cinémas d'art et d'essai. Donc il y a une sélection pour que le film soit retenu. Et puis c'est toute une organisation parce que souvent je sais qui je suis, hein, je suis un réalisateur peu connu. Donc il faut habiller le film. Souvent on fait une rencontre aussi avec des producteurs, un débat qui suit la projection du film, etc. C'est-à-dire qu'il y a un vrai habillage. Et là, on a commencé et on est ravis parce que ça fonctionne bien.
Oui, ça c'est le côté, alors proximité, c'est-à-dire une fois que vous êtes au cinéma, forcément, les spectateurs sont là.
Voilà, les spectateurs sont là on a le retour direct. C'est-à-dire que, jusque-là, les gens ont applaudi à la fin du film. Donc,
Et vous utilisez aussi le réseau Cinémode.
Voilà, là par exemple dans l'Aude, on a donc en grande partie le réseau Cinémode qui est le cinéma qui se déplace pas mal dans la ruralité, mais pas que. On a aussi le Clap Ciné de Port-le-Cat qui a programmé le film et la semaine prochaine nous sommes à Narbonne au Ciné-Théâtre.
Oui, voilà, ça c'est la tournée, c'est vraiment, vous êtes en tournée en quelque sorte.
Voilà, on est en tournée, alors c'est vrai qu'on a démarré dans l'Aude, ce qui est logique hein, en tant qu'Audois, mais après le film, justement, ce qui nous intéresse c'est le tester, parce qu'après il va partir voyager le plus loin possible, puisque moi je pense que cette histoire d'Il était une fois le midi viticole, est une histoire que je qualifie pratiquement de romanesque, parce que c'est une histoire qui a changé la vie des gens, qui a même changé la morphologie des villes, qui a changé les orientations politiques de cette région, etc., qui a eu une influence pendant 150 ans inimaginable, avec son lot de bons moments et son lot aussi de malheurs, de révoltes.
On va y revenir un petit peu, mais justement, là, ce que vous dites, là, c'est... Pour vous, c'est une histoire qui a valeur universelle, qui est le contraire du localisme.
Ah, moi, je pense que ça a vraiment une valeur universelle.
L'aventure humaine, quoi.
Ah, c'est une aventure humaine. C'est l'aventure de migration de populations qui sont venues dans ce midi, qui étaient totalement loin de tout en ce début du 19e siècle. C'est aussi l'expérience du capitalisme qui s'est, on s'en est pas rendu compte, mais le capitalisme a investi énormément dans la vigne au 19e siècle. Et si nous sommes à Narbonne, il suffit de se balader sur le quai, les quais de Lorraine,
oui,
le quai Victor Hugo.
Certaines demeures
qui étaient, c'est la vigne qui a payé tout ça. Enfin, la vigne et le vin qui ont payé tout ça, quoi.
Oui. Alors, on va revenir un peu plus sur le contenu et sur certains événements de cette histoire. Mais je reviens sur la notion de docu-fiction, Yannick Seillier. Pourquoi mélanger fiction et l'histoire, la documentation? Qu'est-ce que ça vous permet?
Alors, moi, j'utilise le documentaire avec, de temps en temps, des intervenants historiens ou un narrateur qui permet de comprendre le déroulé de l'histoire. Mais j'utilise beaucoup de fiction, c'est-à-dire que j'ai filmé donc des actrices et des acteurs en situation. Ça permet deux choses. Ça permet de donner des respirations au film et surtout ça permet de raconter des moments de l'histoire, mais de façon très vivante.
Oui, voilà, c'est une technique en quelque sorte.
Oui, moi c'est une technique que j'utilise. Ça ressemble un peu à la technique du spectacle vivant, hein, c'est-à-dire à la fois du théâtre d'un côté et du cinéma de l'autre. Et là, on est que dans le cinéma, mais il y a d'un côté des gens qui racontent, alors j'allais dire des spécialistes, j'ai des intervenants, historiens, économistes ou même des professionnels. Et à côté, ben, j'ai quand même dans ce film une quarantaine de fictions que j'ai filmées en situation, dans des caves, dans des vignes, avec des charrettes, avec des chevaux, devant des châteaux viticoles, en fait, etc.
Et avec des acteurs à chaque fois bénévoles.
Alors, en fait, il y a les deux.
Pas toujours.
Là, pratiquement, il y a 60%, il y a d'acteurs professionnels dans ce film. Donc, qui dit professionnels, ils sont rémunérés. Et puis ensuite, j'ai des figurants, bien sûr, qui sont bénévoles. Et quelques acteurs avec qui nous jouons depuis des années, qui ont un très bon niveau et qui participent au film.
Oui. Alors, à ce sujet, comment arrive-t-on à financer un film, justement, puisqu'il y a des acteurs à payer et puis il y a des techniciens?
Ben, en fait, le financement de ce film, j'ai eu des partenariats privés en partie. J'ai eu
des mécènes ou quelque chose comme ça.
Oui,
ou...
bon, alors c'est des gens de la profession quand même que j'ai rencontrés, qui connaissaient ma façon de travailler, qui avaient déjà vu. J'ai les fédérations de coopératives, le CIVL. Enfin, j'ai la profession qui m'a accompagné.
Ah oui, la profession concernée.
La profession concernée qui m'a accompagné. Plus un peu de financement. Un peu public, mais sur ce film, pas énormément. Quoi.
Oui, voilà. Donc ça oblige aussi à jongler quand il faut collecter les fonds.
Ah oui, en fait, je dirais que ça, c'est un autre travail.
Vous qui le faites quand même.
Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'il faut au départ trouver des fonds avant de tourner, quoi. Voilà. Donc sur ce film, bon, j'ai réussi à me créer un budget, et puis ensuite, il y a une partie du financement après qui correspond à des recettes. Mais là, il faut qu'il y ait du public. Bon, ça, c'est quand même...
Oui, c'est encore, un autre aspect de l'organisation.
Oui, complètement, oui.
Oui. Et alors, vous évoquiez, Yannick Seillier, dans cette aventure humaine qui a touché notre Languedoc, quelque chose de nouveau. Alors, certains aujourd'hui, et on peut les comprendre, ont l'air de penser que la vigne, il y en a toujours eu chez nous et qu'elle a toujours été une grande partie du paysage. C'était pas le cas.
Et non, c'était pas le cas. Bon, la vigne, effectivement...
Elle est ancienne, mais pas majoritaire comme culture.
Bien sûr. Bon, à l'époque de l'Antiquité, il y a de la vigne avec les Romains. Il y a même du commerce, puisque le centre du monde, c'était la Méditerranée.
Oui.
Mais très rapidement, à partir du 7e siècle, nous basculons dans une économie qui remonte dans le nord de l'Europe, ou dans la région parisienne, pour être... Et ici, c'est fini. On est dans une région de culture vivrière. C'est-à-dire, il faut vivre. Et donc, la vigne, qui était en plaine, ben, laisse la place aux céréales pour fabriquer du pain. Il y a des animaux. Et les vignes, alors, il y en a un petit peu dans les coteaux, pour la consommation personnelle, ou il y en a autour des abbayes, pour les vins de messe.
Oui, ne pas oublier les abbayes et le clergé.
Oui, c'est important parce que quand même, ils vont justement, ça va être les premiers à travailler un peu sur la qualité, sur des cépages et permettre à la vigne de traverser le temps. Mais il n'y a pas une économie viticole, et l'économie viticole revient dans cette région à partir de la fin du XVIIIe siècle, non pas avec le vin au départ, mais avec l'alcool.
Ah, bon, c'est-à-dire qu'on distillait surtout ?
Oui, c'est-à-dire que il y a tellement eu une vague de froid dans les autres régions de France que la région du Midi n'avait pas été touchée au début du XVIIIe siècle. Et sur le canal du Midi, il y a du commerce d'alcool qui se faisait avec des Hollandais à 7. Et donc, petit à petit, ben, on va faire redescendre la vigne dans les zones de plaine, mais au départ, au bord du canal du Midi. Et là, il va y avoir des distilleries qui vont se créer. Si je vous prends un exemple, par exemple...
C'est un aspect inconnu des choses. Ça,
c'est peu connu. Je vous prends un exemple sur la commune de Nissan, qui est à côté. Il y avait 7 distilleries à la fin du 19e siècle.
Ah oui, en effet. Oui, on découvre là.
Oui, et pourquoi ? Parce que l'alcool, c'est neutre, il peut voyager. Le vin, on ne savait pas le stabiliser. Donc très rapidement, comme il fallait 3 mois pour monter à Paris, il arrivait à Paris, il était piqué, etc. Donc on ne faisait pas de vin. On va faire du vin quand le chemin de fer
voilà,
arrive.
En réalité, c'est ça. C'est lié à l'arrivée du train qui permet de transporter facilement vers Paris, évidemment, voilà, le vin. Alors c'est quoi? C'est année 1860-70?
Avant.
Un petit peu avant, 1850.
Avant, oui, 1850. Déjà, la vigne, quand même, se développe dans la deuxième moitié du 19e siècle. En fait, il y a une conjoncture intéressante. C'est à la fois l'arrivée du chemin de fer, et surtout, on est en pleine révolution industrielle, et il y a une très très forte demande du monde, du prolétariat, qui demande du vin, qui devient en fait du vin aliment. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'énergie dans les mines, dans la sidérurgie, et donc, il y a manque de vin en France. Mais le vin, à ce moment-là, on ne le positionne pas comme une boisson.
Ah oui, c'est une matière première, presque.
C'est une matière première. D'ailleurs, on parle de vin aliment,
ouais,
c'est-à-dire d'énergie. Et si vous voulez, à un moment donné, cette région va vite se convertir dans toute la viticulture,
dans la monoculture. Et va faire de la production massive. On marque une seconde pause, Yannick Séguier, on se retrouve pour une troisième partie.